Bonjour et bienvenue dans l'émission Grand Large, l'émission de Fadjet présentée par les jeunes propédeutes. Les propés sont des jeunes qui réfléchissent pendant 9 mois à Nancy sur leur vocation de prêtre. Lors de notre émission sur la Saint-Valentin il y a 2 mois, nous vous avons dit que nous allions passer 1 mois en expériment pauvreté, au Secours catholique pour certains, chez Emmaüs pour d'autres, et à la maison hospitalière Saint-Charles pour les derniers. Donc, Michael, Étienne, Damien, Xavier et moi-même allons vous rendre compte de nos expériences. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, Michael, on commence avec toi. Tu es parti à la découverte du Secours catholique. Tu avais surtout un rôle d'observateur, c'est bien ça?
Oui, je suis allé au Secours catholique de Meurthe-et-Moselle et j'ai pu découvrir toutes les dimensions, toutes les œuvres, les projets que le Secours catholique met en place, sait mettre en place pour les personnes qui sont dans le besoin. Mais le Secours catholique, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne fait pas que du distributif. Il y en a, c'est sûr, mais aussi beaucoup d'accompagnement. Voilà, et je vais vous présenter très rapidement l'émission du Secours catholique. Donc le Secours catholique Caritas France a pour mission de faire rayonner la charité chrétienne par la mise en œuvre d'une solidarité entre tous en France et dans le monde. Également, le Secours catholique considère que les hommes, femmes, enfants vivant des situations de pauvreté sont les premiers acteurs de leur développement. Ils s'engagent à leur côté pour lutter contre les causes de pauvreté et d'exclusion, de promouvoir le développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions. Ils cherchent un partenariat militant avec les organisations qui partagent ses objectifs afin de promouvoir la justice sociale au sein des politiques locales, nationales et internationales. Et enfin, témoignant de l'Évangile, ils invitent chaque personne à aller à la rencontre des plus pauvres, à se mettre à leur écoute, à les soutenir et à s'associer avec eux pour construire ensemble une société juste et fraternelle.
Quelles sont les personnes que tu as rencontrées pendant ce mois?
Alors, j'ai rencontré plusieurs personnes dans le besoin, beaucoup de personnes dans le besoin. Il y a 3 catégories de personnes que j'ai rencontrées. Donc les SDF qui n'ont plus rien, qui sont désocialisés, ils sont à la rue, ils n'ont plus que la rue, c'est leur seule référence.
D'accord.
Et les solutions sont très difficiles à trouver pour eux. Il y a aussi les étrangers, notamment les Roms, on en parle souvent, qui chez eux ils ont moins que rien, alors qu'ici ils auront, c'est une métaphore, mais ils auront au moins rien. Donc, ils savent qu'en France, ils peuvent être aidés. Et pour certains, contrairement aussi à ce qu'on peut croire, ils ont beaucoup de volonté pour s'intégrer. Donc, il y a pas mal de choses qui leur sont proposées, comme par exemple des cours de français. Ils apprennent très vite le français. Et il y a aussi, j'allais dire, des gens lambda, pour des raisons diverses et variées, qui se retrouvent sur la paille. Situation de divorce, par exemple, aussi de licenciement. Et à ce propos, je vous propose le témoignage de Nadine, qui a recours au Secours catholique.
Ce qui m'amène, c'est qu'en fait, tous les mois, j'ai des problèmes de fin de mois difficiles. Je vis avec un RSA. Avant, j'étais à Paris avec mes enfants. J'étais divorcée, donc mes enfants m'ont aidé à payer le loyer. Ici, je suis toute seule, donc maintenant mes enfants se sont installés, ils sont restés à Paris. Et j'ai vraiment du mal avec un RSA à payer mon loyer.
Qu'est-ce que vous apporte le Secours catholique?
Le jour où vraiment on n'a plus l'argent, comme là, j'arrive en fin de mois, j'ai vraiment plus rien pour me nourrir. Ils sont quand même là pour nous aider un peu.
Donc voilà le témoignage de Nadine. Donc, le Secours catholique ne fait pas que du distributif, comme je le disais tout à l'heure, mais il en fait tout de même, principalement pour les urgences alimentaires et sanitaires, comme Nadine, qui en a besoin, avec des chèques services d'un montant de 8 euros. C'est pas beaucoup. Donc là, je vous propose d'écouter Bernard, un bénévole, sur la distribution.
En moyenne, afin de pouvoir donner un maximum de gens, on en donne guère plus de 2 bons, c'est-à-dire 16 euros, parce que nos finances sont nettement fondues avec la crise et nous ne pouvons plus nous permettre, normalement, par exemple, d'aider les gens qui ont le RSA. Nous avons en charge de tendre la main à ceux à qui on ne tend jamais la main. On ne se rend pas compte de la souffrance de jeunes entre 16 et 25 ans qui n'ont pas de RSA, qui sont jetés de leur famille. Je dis bien jetés. Combien j'en vois, ils arrivent chez nous, ils viennent au bout de 3-4 jours qu'ils sont dans la rue, dans un squat en plein hiver à 0 degré. Nous sommes aussi des aides, je dirais, sur tous les plans. Aide morale, on vient de recevoir un petit jeune juste avant avec ma collègue, complètement déprimé. Notre boulot, c'est aussi de les écouter pour leur donner ne serait-ce qu'une toute petite étoile dans la nuit.
Voilà donc Bernard, un bénévole du Secours catholique. Je voudrais préciser qu'en Meurthe-et-Moselle, il y a 800 bénévoles, c'est pas rien. Je les ai vus à l'œuvre. Ils donnent de leur temps. Des fois, c'est pas évident face à des situations. Beaucoup d'ingratitude. Donc voilà, donc beaucoup de choses que j'ai pu observer au Secours catholique.
Merci Mickaël, voilà pour le Secours catholique. Donc avant de partir chez Emmaüs, nous allons écouter un extrait de Jean-Michel Jarre. Mickaël, c'est toi qui as choisi cette musique. Pourquoi Jean-Michel Jarre?
Alors Jean-Michel Jarre, donc, en 87 ou 88, il a composé un album qui s'appelait Révolution. Donc c'était un album qui a été composé pour sensibiliser et dénoncer les injustices à travers le monde. Voilà.
De retour sur Fadjet, dans la première partie de cette émission Grand Large, Mickaël nous a dit comment s'est passé son expériment pauvreté au Secours catholique de Meurthe-et-Moselle. Trois d'entre nous étaient accueillis par les communautés d'Emmaüs en Moselle. Étienne, toi tu étais à Peltre.
Oui, j'étais à Emmaüs Peltre avec Benoît.
Et est-ce que cette communauté existe depuis longtemps ?
Effectivement, cette communauté est très ancienne. C'est l'une des premières en Lorraine. Donc je suis allé interroger Marie-Ange, la responsable, pour qu'elle nous en parle.
La communauté Emmaüs de Peltre fait partie de la grande maison Emmaüs France. C'est une communauté qui accueille 35 compagnons. Ce sont des personnes qui vivent à la communauté, qui sont arrivées par différents moyens, soit par des intervenants sociaux, soit par eux-mêmes. Mais ce sont tous des personnes qui n'ont plus de domicile. Donc des personnes qui sont à la rue, qui viennent à la communauté, sont logées, nourries, blanchies et en contrepartie travaillent. Et ces 35 compagnons vivent de leur travail. L'idée des communautés à l'initiative de l'abbé Pierre est de récupérer tout ce que les personnes ne veulent plus et les personnes peuvent également venir déposer à la communauté.
Quelle est à peu près la répartition ? C'est tous des anciens ou il y a quelques nouveaux ?
Nous avons un tiers qui sont des anciens compagnons, donc qui ont une ancienneté qui est de plus de 10 ans sur la communauté, qui sont des personnes qui ont vécu une grande partie de leur vie sur la communauté Emmaüs et qui font partie des bâtisseurs, hein, donc des personnes qui ont vu se développer et construire la communauté. Un tiers qui est là entre 5 et 3 ans, et puis un dernier tiers qui est vraiment un dernier tiers volant, qui sont des personnes qui vont rester très peu de temps, beaucoup de jeunes, mais qui ne vont pas du tout s'installer à la communauté, qui pour qui ce sera voilà, un lieu où ils se seront où ils auront trouvé un certain équilibre de travail et de soins pour repartir ensuite.
Comment se prennent un peu les décisions qui changent un peu le quotidien des compagnons ?
La communauté est conçue sous forme associative. Donc nous avons un conseil d'administration avec des administrateurs bénévoles et un président à la tête de ce conseil d'administration. Donc ce conseil d'administration prend les décisions importantes, notamment sur le plan financier. Et nous avons l'habitude de réunir les anciens compagnons une fois par mois et de réunir les compagnons une fois tous les 3 mois, donc l'ensemble des 35 compagnons, de manière également à évoquer le fonctionnement quotidien de la communauté. Nous avons un objectif de construire 12 logements supplémentaires. L'idée de ces 12 logements supplémentaires, ça répond à deux besoins. Le premier, c'est de loger nos compagnons retraités, puisque nous avons un nombre de compagnons retraités qui augmente. Donc, besoin de places supplémentaires pour pouvoir accueillir des personnes qui ne soient pas en retraite, pour pouvoir faire fonctionner la communauté. Et le deuxième besoin, c'est d'accueillir des femmes, puisque nous sommes une communauté aujourd'hui exclusivement réservée aux hommes, car les femmes sont aussi à la rue, il n'y a pas que des hommes dans la rue. Le projet de construction devrait voir le jour en 2013 et nous permettre d'accueillir donc de nouvelles compagnes à partir de fin d'année 2013.
Alors Étienne, qu'est-ce que tu as fait pendant ton expériment à Peltre ?
Ben, on a tourné sur les différentes activités qui sont proposées aux compagnons. Donc la première activité, c'était le tri du papier. Donc on récupère des sacs de déchets et puis on trie le papier pour le récupérer et ensuite le recycler. La récupération de carton dans diverses entreprises et dans les centres commerciaux des environs de Metz. Aussi la tenue du magasin, parce que les communautés Emmaüs vendent des meubles qu'elles récupèrent. Donc il faut être au magasin pour pouvoir déplacer les meubles, arranger pour que ce soit accueillant. Aussi le camion de Chine, donc ça c'est ce qui ramène les meubles. Donc livraison et récupération des meubles. Donc c'est là-dessus qu'on a tourné le plus, parce que c'est là-dessus où il y a les plus gros besoins. Et on a même été amené à conduire aussi quelquefois le camion vu qu'ils n'ont pas assez de chauffeurs pour remplacer ceux qui étaient manquants. Donc sinon, tous les ans, la communauté reçoit 2 propédeutes à Peltre. Donc Marie-Ange nous explique qu'est-ce qu'elle en attend.
L'attente de la communauté et des compagnons, c'est bien sûr d'accueillir des personnes qui viennent découvrir notre communauté. C'est pour la communauté un regard extérieur. Certains compagnons ne sortent jamais de la communauté, donc ils sont le seul apport autre que la vie quotidienne de la communauté. C'est un apport aussi de force vive, de travail. Et puis c'est un moyen aussi de trouver un temps d'échange avec des personnes qui ont un parcours différent par rapport à nos compagnons. Et c'est toujours enrichissant. Les compagnons sont toujours très curieux, mais leur grande question, c'est sont-ils ou pas rentrés au séminaire. Ils prennent effectivement des nouvelles, aiment bien revoir les personnes, les propédeutes à la communauté, parce que ils ont tissé un lien pendant une période d'un mois, donc ça n'est pas quelque chose de négligeable.
Oui, donc effectivement, nous aussi, on lie des liens avec les compagnons, donc on prévoit de les revoir pendant les vacances. Sinon, à Forbach, quelle est la spécificité de la communauté ?
Donc à Forbach, il y a une place pour tout le monde, parce qu'il y a des différentes activités possibles. Il y a bien sûr le magasin et le ramassage, comme dans toutes les communautés, mais la communauté a des spécificités. Par exemple, il y a un centre de tri d'habits qui s'appelle Tri d'Union, où des femmes en difficulté financière travaillent et sont en même temps prises en charge pour se réinsérer dans la vie active. La communauté s'occupe aussi d'une recyclerie d'objets électroniques qui permet de donner une seconde vie aux télévisions, ordinateurs et autres appareils. À côté de ça, toute l'année, une machine tourne pour faire des copeaux de bois qui servent à alimenter les chauffages des bâtiments d'Emmaüs et ceux des mairies alentours. Donc pendant notre mois là-bas, on a essayé de passer par tous ces ateliers. Et ça nous a permis de parler avec un grand nombre de compagnons.
Et tu as appris quelque chose lors de ces échanges avec les compagnons ?
La première chose qui m'a frappé, c'est que les gens vivent à côté de chez nous peuvent être aussi touchés de très près par la pauvreté. Alors qu'on s'imagine souvent que les pauvres ne sont que dans les pays en voie de développement. Mais j'ai discuté par exemple avec un compagnon de 19 ans qui ne vit plus avec ses parents et qui essaye tant bien que mal de continuer dans la vie. Et tous les compagnons avaient leur propre histoire et un parcours de vie bien différent.
Alors, tu as appris des choses sur eux, mais penses-tu que tu leur as aussi apporté quelque chose de toi ?
Certains ont été intrigués par mes études en propédeutique et par ma vocation de vouloir faire prêtre. Alors je pense qu'en parlant avec eux, je leur ai donné une expérience de vie qu'ils ne connaissent certainement pas. En plus, pendant ce mois, il y avait Benoît XVI qui a renoncé à sa mission de pape, donc ça a mis le thème de la religion au milieu de nos discussions. Donc on a pu parler de notre foi ouvertement, sans problème. Donc ce mois a été enrichissant pour moi, et je l'espère pour eux aussi.
Merci Arnaud pour ce partage d'expérience. Donc il semble qu'il reste une troisième communauté, Emmaüs.
Oui, donc Damien, c'est toi. Tu étais avec Sébastien chez Bernard à Sarreguemines.
Oui, à la communauté Emmaüs de Sarreguemines. Alors Bernard, c'est le responsable de la communauté. Il faut que je vous le présente en quelques mots. Bernard, c'est d'abord une voix. Une voix qui résonne quand il hausse le ton dans la salle de vente. Ça arrive assez fréquemment avec des compagnons pas toujours très simples. Il fait un peu figure de paternel, hein, Bernard. C'est un personnage haut en couleur. C'est aussi un physique. Certains le compareraient volontiers à une armoire à glace, un peu un physique de rugbyman. Il impose le respect tout de suite quand on le voit. Son petit surnom, bah, ça ne surprendra personne, c'est Nanar. Et Nanar, il a aussi un passé avec, comme dans toute vie, des bons côtés, de moins bons côtés. Il a servi la France dans un régiment étranger, en Corse, à Calvi, avec pas mal de missions d'opérations extérieures. Il a terminé sa carrière militaire avec le grade de lieutenant, alors qu'il est rentré au bas de l'échelle, ce qui est pas mal. Et puis Bernard, il a donc connu la France par l'intermédiaire de ses tribunaux et de ses prisons. Il ne s'en cache pas, ça fait partie de sa carte de visite. Il en est presque même assez fier, ça pose le bonhomme face à des individus un peu compliqués. C'est d'ailleurs pour ça que la communauté mère dans laquelle tu te trouvais, Arnaud, à Forbach, lui envoie certains compagnons un peu difficiles à gérer. Et de tout cela, eh bien, découlent des méthodes pour le moins spéciales. Vous allez l'entendre. Je passe un coup de fil tout de suite à Bernard. Bernard, bonjour. Alors Bernard, quand nous sommes arrivés à Sarreguemines le 4 février dernier, tu nous as tout de suite dit que tu attendais beaucoup de notre temps de présence sur place. Quelles étaient tes attentes ?
Eh ben, d'apporter un renouveau au sein de la communauté, une vision extérieure, et puis conjuguer un peu votre savoir et le nôtre.
Et est-ce qu'on a répondu à tes attentes ?
Ah, totalement. Totalement. Ça a un énorme changement au niveau de la vue de mes bonhommes sur leur structure, une vue des gens qui sont, comme vous, en voie d'intégrer le séminaire. Puis une autre vue extérieure, on va dire, avec le regard de personnes qui sont étrangères à notre communauté et qui s'investissent et qui voient un peu le bon ou le moins bon déroulement des choses, quoi, dirons-nous.
Et dans le bon ou le moins bon déroulement des choses, ça dépend de quel côté on se place. Il y avait ce qui tient particulièrement à cœur, hein, entre autres choses, cette histoire du repas pris en commun le soir, ce qui n'était pas tout à fait ou pas tous les jours le cas avant notre arrivée. Pourquoi c'est si important pour toi de réunir tes bonhommes, comme tu les appelles, autour d'un repas le soir en particulier ?
Bah, faut que ça reste un moment de partage et un moment de vie communautaire, faut pas l'oublier. Puis les bonhommes, bon, bah, sont là pour se redresser. Ce qui fait la force des bonhommes ici, c'est qu'à plusieurs, on est toujours plus fort, d'accord ? Mm-hmm. Plutôt que d'être individualiste, bah, autant être avec un esprit communautaire. Pour un bon fonctionnement de la communauté, pour une meilleure gestion aussi au niveau de leur avenir et de leur devenir. Et je pense que bah, vous avez, et on a apporté, en mettant tous sa petite pierre à l'édifice, un bien-être.
Tu lisais aussi, hein, il y a quelques phrases un peu cultes comme ça qui sont restées en tête. Le chiffre d'affaires, bon, c'est vrai, à la salle de vente, c'est une chose, ça a son importance pour payer les frais fixes et compagnie. Mais ce qui, par-dessus tout, est important pour toi, c'est de relever les bonhommes. Et pour ça, tu as des méthodes que je qualifierais avec mon regard un peu extérieur de martial, parce que tu as un passé militaire. Est-ce que tu peux nous en dire juste quelques mots ? C'est vrai que c'est un peu décapant quand on n'est pas habitué, hein, de te voir, on va dire, manager les compagnons.
Dire que quelquefois je peux être rude, dire que quelquefois je suis très terre à terre et quelquefois violent dans mes propos, c'est simplement pour que les gars réagissent. Parce que les erreurs que moi j'ai commises dans ma vie de tous les jours et dans ma vie d'homme jusqu'à maintenant, Emmaüs m'a beaucoup aidé à me corriger et à grandir. Et puis bon, bah voilà quoi, bon, j'ai la chance d'avoir les compagnons qui me font confiance et qui viennent me voir pour tout un tas de choses, hein, aussi bien privées que. Autre. Si à mon niveau je peux les aider à ne pas rechuter, que ce soit au niveau de l'alcool, des stupéfiants ou de la vie en général, parce que la vie ne fait pas de cadeaux, c'est ce que je leur dis ouvertement et dès que j'ai l'occasion de leur dire et puis de leur rabâcher et de leur répéter, c'est pour qu'ils prennent le jour où ils s'en vont un départ sain et sur un bon pied. La seule chose qui me fait du bien, c'est quand j'en vois qu'ils s'en vont, qu'ils me disent bah voilà quoi, on a retrouvé du boulot ou on a ceci ou on a cela. J'ai déjà recroisé des compagnons dans différentes régions qui étaient en couple, hein, avec un enfant ou sans enfant, et pour qui ça allait beaucoup mieux dans leur vie d'homme, on va dire. Donc je pense que moi, avant toute chose, bon, il est vrai qu'on a une salle à faire tourner, mais il y a avant tout l'homme, le genre humain. De l'homme couché à l'homme debout, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Voir cette progression et voir ces gens se relever, je trouve que c'est tout ce qu'il y a de plus intéressant dans la vie actuelle.
On aimerait savoir si les choses qu'on a pu tous ensemble, encore une fois parce que c'est une affaire collective, les choses qu'on a pu tous ensemble instaurer perdurent à l'heure actuelle, plus d'un mois quasiment après notre départ de Sarreguemines.
Mmh. Eh ben, ça dure. Le simple fait bien établi de la prise des repas ensemble en commun, le fait d'entretenir et de gérer différemment le lieu de vie, ça leur tient à cœur. Et puis bon, il revient très souvent dans les conversations, le prénommé Damien et Sébastien. Ils reviennent très souvent et ça garde d'excellents souvenirs. Et vous avez apporté, messieurs, des choses beaucoup plus importantes que vous n'avez osé y penser.
Merci Bernard, merci beaucoup. Et je me permets simplement de préciser tout court à l'antenne les prénoms des compagnons et leurs surnoms. Il y avait Odette, la compagne de Bernard. Il y avait Jean-Marie dit Chamallow. Il y avait Pierre dit Poupette. Il y avait Hervé dit le vieux. Il y avait Marc dit le vieux C-O-N. Et puis Morgane, le plus jeune, qui sera bientôt papa et à qui nous souhaitons bonne chance. Alors à Nancy, il y a également une communauté Emmaüs. Je vais simplement vous donner l'adresse. C'est rue du 8e régiment d'artillerie à Vendeuvre, et on peut déposer toutes sortes de choses du mardi au samedi entre 8h30 et 11h30 et l'après-midi entre 13h30 et 17h15. Et les ventes ont lieu le mercredi et le samedi toute la journée, et le mardi et le vendredi, Arnaud, en début d'après-midi.
Merci Damien, je précise juste leur numéro de téléphone. Donc pour contacter la communauté de Nancy, vous pouvez appeler au 03 83 29 76 79. Maintenant, avant d'écouter Xavier, je vous propose la plus connue des musiques des Enfoirés.
Moi, je file un rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste.
Toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans l'étable. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours, toujours en overdose.
J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs.
C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim. Mais ça le deviendrait si on n'y change rien.
Cheers. savoir.
Les portes sont closes.
Mais où passer de chacun pour soi.
Les autres sont toujours en danger.
De retour sur Fadjet pour la dernière partie de notre émission Grand Large. Je vous rappelle le thème du jour. Nous, les propés, étions partis tout le mois de février en expériment pauvreté, soit au Secours catholique, soit chez Emmaüs, ou bien encore à la maison hospitalière Saint-Charles de Nancy. Xavier, peux-tu nous présenter la maison Saint-Charles ?
Alors, la maison Saint-Charles, c'est un établissement privé à but non lucratif. Sa mission définie par l'article 2... des statuts et d'assurer l'assistance médicale, les soins et l'hébergement des personnes âgées qui lui sont confiées. Vite fait en présentation, il y a la consultation gériatrique, consultation mémoire, l'hôpital de jour, l'accueil de jour, les soins palliatifs, un service de médecine, de soins de suite et de réadaptation, d'unités de soins longue durée, d'hébergement pour des personnes âgées dépendantes, dont un service résidence de Saint-Charles, et ça fait un total de 227 lits. Donc la fondation de la maison hospitalière Saint-Charles est fin 16e siècle, en 1592. Il y a des constructions pour agrandissement en 1720, et les sœurs délèguent au milieu laïque en 1976. Il y a actuellement un projet d'agrandissement pour 2015.
D'accord, Xavier. Et qu'est-ce que tu as fait pendant ce mois à la Maison Saint-Charles ?
Alors moi, j'étais considéré comme stagiaire brancardier. Donc, je suivais un peu toutes les tâches du brancardier. Assurer les couchers, les lever et les coucher, les aides à la marche, les aides alimentaires, refaire les lits, le petit ménage qui est fauteuil ou la désinfection de l'environnement des patients.
D'accord.
Et aussi l'évacuation des linges, etc.
Donc tu y es retourné cette semaine pour rencontrer une aide-soignante qui nous explique un peu son travail. Alors écoutons Isabelle qui revient sur le caractère choquant que peut avoir la vision du patient dénudé.
Ça n'a pas été choquant parce que quand on fait justement l'école d'aide-soignante, on nous apprend à préserver la pudeur. Donc il y a des rideaux que l'on tire quand il y a des chambres à double lit. Et puis avec nos serviettes de toilette, on peut recouvrir les patients, ce qui préserve aussi leur pudeur et leur dignité également. C'est un métier qu'il faut choisir par passion et puis aussi par vocation. Et se dire aussi qu'on travaille avec des personnes humaines. Si tu aimes ton métier, si tu aimes les personnes, c'est un métier que tu peux faire à la vie, à la mort. Ça, c'est comme la religion, Xavier.
Merci, Isabelle. Alors, Xavier, je sais que tu as tellement aimé travailler là-bas que tu as décroché un contrat pour l'été. Pourquoi passer tes grandes vacances ici plutôt qu'ailleurs, alors que tu as déjà travaillé dans une industrie agroalimentaire ?
Tout d'abord, parce que je pense que toutes les personnes qui travaillent dans la maison, leur travail, c'est comme une passion. Et le fait de se mettre au service des personnes âgées est très intéressant. Du côté de la charité ou même de l'aide, il est vrai que ce n'est pas un travail comme les autres, mais comme Isabelle l'a très bien dit, c'est une vocation. Je pense que c'est comme tous les travails, il est plus facile de s'épanouir dans les travails que l'on aime.
D'accord, merci Xavier. Alors l'émission touche à sa fin. J'espère que nos témoignages ont changé un petit peu votre regard sur la pauvreté. Le prochain rendez-vous avec Grand Large est le dimanche 5 mai avec le thème tout à fait différent puisque 4 autres propés vont vous parler de la musique sacrée. Avant de terminer, Damien, peux-tu nous rappeler les coordonnées de la propé ?
Les coordonnées pour les réseaux sociaux, il y a une page sur Facebook. Et puis, vous pouvez aussi vous connecter à notre site www.propé-saint-jean-baptiste, Saint-Brège ST, Jean-Baptiste, B-A-P-T-I-S-T-E, .fr.
Merci Damien, merci aussi à Michael, Étienne et Xavier. Demain, bonne fête au Gautier, à bientôt sur Fadjet.